21h passée de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Radion 90.5 dans Lyon ou peut-être nous écoutez-vous via internet sur radion.fr aux quatre coins de la Bourgogne, de France, d'Europe et du monde. Sait-on jamais. 287e numéro de Wagon Livre ce soir, mercredi 8 mars. Et je suis très heureux de l'accueillir sur les banquettes de Wagon Livre. C'est Sandra Amani qui va nous accompagner jusqu'à 22h. Bonsoir Sandra.
Bonsoir Yannick, bonsoir chers éditeurs.
Merci Sandra d'être ce soir devant les micros de Wagon Livre. Alors, on te connaît parce que tu as tout de même une bonne dizaine d'ouvrages à ton actif. Tu écris depuis 2001, me semble-t-il.
15 ouvrages exactement.
15 ouvrages et on va ce soir s'intéresser. Alors, le petit dernier sorti courant février dernier. Et puis, il y en a un qui est sorti en 2016, mais dont le contenu reste toujours aussi pertinent, attrayant et passionnant. C'est donc Les histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne, donc aux éditions du Belvédère, installé à Pontarlier, dans le département du Doubs. Et puis, le petit dernier, d'ailleurs, on t'a vu dans Lyon Républicaine sur Chablis, puisque tu es enseignante de lettres modernes au Collège de Chablis.
Tout à fait.
Et le petit dernier, que j'ai entre les mains, et qui s'intitule Les chemins du mystère. Alors, aux éditions
Temps impossible.
Temps impossible, avec une illustration de couverture de Fred Griveaux. On parlera de tes copains dessinateurs au cours de l'émission.
J'y compte bien.
Alors Sandra, je l'ai dit, tu es actuellement professeure de lettres au Collège de Chablis. Tu es née à Paris. En fait, tu n'es pas une fille de la campagne. Tu n'es pas une bourguignonne pure souche.
Pas de pure souche. Bien que je tienne vraiment à mes racines bourguignonnes.
Alors tu as passé beaucoup de temps chez tes grands-parents, à La Roche-en-Brenil, c'est-à-dire le Morvan Côte-d'Orient.
Oui, les portes du Morvan même. Mais c'est vrai qu'on retrouve déjà dans ce village l'ambiance morvandelle, les collines, les forêts, les pierres de légende. Donc pour moi, c'est le Morvan, même si certains détracteurs du Morvan, justement, considèrent que je ne suis pas une vraie morvandelle.
Alors, en 2009, aux éditions de l'Escargot Savant, tu as fait paraître un recueil intitulé « Légende du Morvan ». Et d'ailleurs, ce livre a une dédicace particulière. Il est dédié à ton grand-père, Louis Fournier. Tu nous donnes quelques petites informations et quelques petits souvenirs de ce grand-père avec, qui apparemment t'a beaucoup promené dans les bois du Morvan.
Mon grand-père, donc, Louis, est l'instigateur de ce livre, même si, hélas, il n'en a pas vu la sortie, puisqu'il est mort 2 ans avant, en 2007, malheureusement. Et quand j'étais toute petite et que j'avais la chance de venir en vacances dans le Morvan, nous partions, lui et moi, tous les deux, à travers bois et forêts. Et c'est lui qui me racontait toutes ces belles légendes que j'ai fait figurer dans ce recueil.
Alors, ces légendes, justement, je lis la quatrième de couverture de ce livre. Les légendes, l'auteur les a cherchées dans les maisons de granit où vacille le foyer, dans les châtaigneraies où boutent les sangliers, mais aussi de sa sensibilité au gré d'une berge d'étang ou d'un sentier qui fleure bon les champignons et le chevreuil et dont toutes les pores du sol et des algues transpirent le mystère, la légende.
Ouh. Oui, exactement. En fait, après la mort de mon grand-père, bon, j'ai eu une vraie nostalgie parce que je crois que cet homme vraiment était l'homme le plus important de ma vie à l'époque, du moins. Et quand il est décédé, je suis retournée sur les lieux où on avait rêvé ensemble, où on avait beaucoup parlé ensemble. Et des impressions, des sentiments me sont revenus. Et je me suis dit, je dois vraiment lui rendre un hommage. Et cet hommage, c'est Légende du Morvan.
Ce grand-père a été pour toi une sorte de passeur de mémoire au niveau de la transmission de ces légendes, de ces contes. Il t'en racontait beaucoup.
Oui, voire il en inventait. Je te cite un exemple, Yannick, le château de La Roche-en-Brenil. Quand on est petite, on a plein de rêves. Et c'est vrai que je connaissais le conte de la Belle au bois dormant. Un jour, je me promenais avec lui et je lui dis, mais dis donc, Pépère, c'est comme ça que je l'appelais, la Belle au bois dormant, ça s'est passé où? Et lui, on était devant le château, il m'a dit, ben, ici, ma gamine. La Belle au bois dormant, c'est ici qu'elle a dormi. Depuis, ils ont enlevé les ronces du château, ils ont tout refait, mais oui, ça s'est passé ici. Et c'est vrai que plusieurs années plus tard, j'ai encore ce souvenir de mon grand-père et moi devant le château de La Roche, et moi émerveillée en me disant, oh, j'ai la chance d'habiter dans le village où la Belle au bois dormant a dormi.
Tu parles de ton grand-père, je peux m'empêcher, et de la saluer en même temps, Gadine, Barbara Moreau, dont le grand-père a été au cœur de ses premiers écrits. Aujourd'hui, elle est sur d'autres pistes, peut-être plus exotiques, elle nous dépaysera peut-être. En tout cas, Gadine, Barbara Moreau, on te salue, on t'embrasse, et je t'attends prochainement devant les micros de Wagon Livre dès que le prochain ouvrage sera disponible. Les grands-parents jouent un rôle important, toi qui es enseignante avec tes élèves, les grands-parents sont importants, tu crois? Est-ce qu'ils aident à enrichir l'imaginaire de leurs petits-enfants?
Alors, ça, je ne peux pas te répondre exactement. Bon, mais je pense que l'image du grand-parent a considérablement évolué aujourd'hui. Regarde, imagine Yannick, je suis grand-mère dans, admettons, je suis grand-mère dans 5 ans. Je ne serai pas la grand-mère qui a été la mienne. Je crois que nous, enfin, je ne suis pas encore grand-mère, hein, je le répète, mais je pense que les temps évoluent, le grand-parent, le grand-père ou la grand-mère ne sont plus. La grand-mère maintenant ne fait plus de confiture. D'abord, j'ai jamais appris à faire des confitures, donc jamais, je pense, je ne ferai de confiture pour mes petits-enfants. Mais si tu veux, voilà, je trouve que justement, maintenant, le grand-parent, par excellence, est devenu une légende, lui aussi. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage parce que je crois que mes élèves eux-mêmes n'ont pas de leurs grands-parents l'image que j'avais des miens. Maintenant, le grand-père, la grand-mère, c'est celui qui va faire les magasins, c'est celui qui va jouer au football. Mais je pense pas que ce soit celui maintenant qui transmette
Les
le savoir des légendes.
grands-parents ont évolué, se sont modernisés, ils ont des tablettes, c'est plus la grand-mère au coin du feu qui file et qui raconte
Voilà.
des histoires devant le foyer
Ils ont des
aux
tablettes, des
petits-enfants.
portables, ils envoient des textos, ils sont sur Facebook. Moi, je crois que je serai cette grand-mère-là, pas la grand-mère qui a été la mienne. Et tant pis, c'est comme ça, c'est l'évolution. C'est pour ça que je me donne aussi le devoir de transmettre la mémoire des légendes, la mémoire du terroir à mes élèves également, autant qu'à mes futurs petits-enfants.
Ton dernier recueil de textes, il y en a cinq, donc sont réunis dans un petit ouvrage assez fin, il faut le reconnaître.
C'est un essai pour moi.
Les chemins du mystère, et justement, lorsque l'on regarde les titres des 15 ouvrages inscrits à ton palmarès littéraire, on se rend compte qu'il y a deux mots-clés, c'est mystère, l'adjectif mystérieux, et légende. Et je me disais, est-ce qu'un jour tu quitteras cet univers? Y compris celui du magique, du fantastique, du merveilleux, puisqu'il y a des fées, des diables, des créatures de toutes sortes, bonnes ou mauvaises, dans ses écrits. Est-ce qu'un jour tu quitteras cet univers pour aller peut-être vers un roman plus réaliste, plus naturaliste, plus réaliste?
Alors, je vais quand même essayer de te répondre parce que c'est très très intéressant ce que tu viens de me dire, Yannick, parce que justement, j'ai eu besoin par ce recueil, Les Chemins du Mystère, de quitter le monde des légendes, mais de continuer à m'ancrer dans le monde du fantastique. Et quand Dominique Vallée, l'éditeur de Temps Impossible, et également créateur de cette collection court-métrage dont fait partie mon recueil, m'a demandé de travailler pour lui. Je me suis dit, c'est une véritable opportunité. Alors, opportunité de ne plus rester Miss Légende, hein, comme maintenant on a coutume de m'appeler, et de devenir. Alors, du réalisme, non, je pourrais pas. Je le laisse aux gens compétents, le réalisme. Mais au moins, de devenir vraiment un auteur de fiction. Donc fiction fantastique, mais fiction tout de même, même si on reste encore dans ce recueil ancré dans le terroir, puisque c'est sur fond de Bourgogne, la couverture elle-même est parlante, hein, puisque c'est la gare de La Roche-en-Bonil qui est représentée. Mais par contre, là, on quitte le monde de la légende et c'était très très important pour moi d'évoluer.
Alors, on reste en Bourgogne avec ces cinq histoires donc, qui composent les chemins du mystère. mais où domine tout de même la souffrance, le malheur, la perte, la maladie. Il y a une certaine gravité tout de même dans ces cinq histoires.
Oui,
un petit peu d'amour, un petit peu de dépaysement, une sorte de réécriture parfois même, ou de réappropriation du temps à la manière de la pièce de Sartre. Je n'en dis pas trop, mais il y a une certaine gravité tout de même dans les sujets évoqués.
Oui, parce que je crois qu'au fond de moi, je reste quelqu'un de, malgré les apparences, quelqu'un de très profondément, pas triste, mais de très profondément tourmenté. Donc je crois que dans ce recueil, en me publiant, Dominique m'a permis enfin d'exprimer des sentiments profonds. Chose que je ne pouvais pas faire avec mes légendes, puisque la légende, c'est une réappropriation. Donc bien sûr, dans mes contes et légendes, dans mes histoires extraordinaires et mystérieuses de Bourgogne, on trouve des contes, c'est-à-dire des choses que j'ai inventées, mais j'étais obligée quand même de suivre une ligne éditoriale. Alors que là, j'ai vraiment laissé libre cours à mon imagination. Et ces histoires sont le reflet de moi-même, c'est vrai. Et c'est très très étrange ce qui en ressort à travers ce que tu me dis, puisque c'est vrai. En fait, je reconnais. Mon univers tourmenté est bien présent dans ces histoires.
Mais la fantaisie est au rendez-vous. Par exemple, la dernière histoire. Alors, je vais bien sûr
pas
révéler.
Ah, surtout pas.
La dernière histoire. Et tu pourras peut-être même nous en lire un extrait dans l'émission. Juste
d'accord.
Pour mettre en appétit les auditrices et auditeurs, la dernière histoire, Voyage sans retour, est absolument formidable. Sans fin. Parce qu'au départ, je me suis dit, mais où va-t-elle? Et on comprend au bout d'un moment. Mais là, je dirais qu'il y a une véritable fantaisie. Je dirais même un certain culot, presque.
Je peux raconter l'origine de cette...
Bien sûr.
En fait, Daniel Rousseau, je pense que tu le connais aussi, Daniel Rousseau, avait lancé pour son salon Bligny-sur-Ouche un concours de nouvelles qui s'intitulait, enfin, dont le thème était « Voyage sans retour ». Et donc, j'ai commencé à chercher quelle idée je pouvais avoir et j'ai eu l'idée. Mais en général, les concours de nouvelles... Je les perds, c'est systématique, je n'ai jamais gagné un seul concours de nouvelles. Donc je me suis dit, non, c'est beaucoup trop fantaisiste pour plaire à un concours de nouvelles. Donc je ne l'ai pas écrite, cette histoire. Et je l'ai quand même résumée, je l'ai quand même présentée à Dominique, qui me dit, mais c'est génial, c'est pas toi du tout, mais au fond, ça déconcerte. Alors j'ai dit, je la fais, allez, je la mets. Et tant pis si ça déconcerte mes lecteurs de base. Et je l'ai écrite et je suis ravie, Yannick, ravie, connaissant tes goûts littéraires, qu'elle te plaise. Vraiment,
oui, parce
ça
que,
me touche beaucoup.
Parce qu'on a le sentiment de rentrer dans le suspense d'une captive et je ne vais pas trop en dire, mais au bout d'un moment, on découvre l'identité de la narratrice. Et ça, c'est absolument formidable. Il faut dire aussi que tu as peut-être eu la prudence de mettre cette histoire à l'extrême fin du recueil. Il n'eût pas été, à mon avis, pertinent d'ouvrir le recueil avec cette histoire-là, puisque la première histoire intitulée « L'enfant du jardin » est liée à un fantôme qui revient, mais c'est le fantôme de notre propre enfance, d'une certaine manière. On en reparlera peut-être après la pause musicale. Sandra, si tu le veux bien. Je rappelle donc que c'est Sandra Amani qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Libre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion. Sandra qui nous présente son tout petit dernier... Comment tu dis, un essai,
c'est pas un essai, c'est un recueil, un recueil d'histoire. Oui, oui, quand je dis essai...
C'est un essai dans l'approche du genre fantastique.
Hors légende.
D'accord. Les chemins du mystère que nous empruntons avec Sandra, et puis nous reviendrons aussi sur un recueil d'histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne, sorti l'an dernier. Très bonne soirée à toutes et à tous, pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Always in time, but never in line for. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. Again.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Sandra Amani est avec nous ce soir pour un recueil de textes, de nouvelles, Les Chemins du Mystère aux éditions Temps Impossible. On parlera aussi de ces histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne. Alors, avant la pause musicale, nous parlions de la dernière nouvelle qui composait la dernière publication de Sandra. Cette nouvelle a pour titre Voyage sans retour. Et Sandra, je disais qu'il était question de découvrir l'identité de la narratrice. Alors, on va simplement essayer de mettre sur la piste, mais tous les éléments, toutes les clés ne sont pas dans la lecture que tu vas nous faire, mais je te laisse nous lire un paragraphe de cette nouvelle Voyage sans retour.
Mais le pire, je crois, c'est lorsque je me suis retrouvée au sein d'une chambre noire et que, lors d'une étrange cérémonie, on m'a mordu de toutes parts, déchirant ma jolie robe rouge. Quelle horrible souffrance ! Pourquoi certaines personnes sont-elles aussi cruelles ? Comment peut-on prendre autant de plaisir à se repaître du mal que l'on fait subir à autrui ? Quand mes tortionnaires cessèrent de s'acharner sur moi, ils me poussèrent dans la pièce où je me trouvais actuellement. Leur rire moqueur ne laissait rien présager de bon. Épuisé, je finis par m'assoupir. Je plongeais dans un demi-sommeil, l'essence néanmoins toujours en alerte.
Alors, l'essence toujours en alerte, il y a aussi dans tes textes, alors que ce soit les légendes ou même ceux que tu composes, il y a un sentiment que tu honores et que tu illustres souvent, c'est tout de même l'amour. La passion, l'amour. Tu avais sorti il y a, je crois, c'est en 2013, Les amours et passions d'antan en pays bourguignon, c'était aux éditions de l'Esclavo Savant, où il y avait d'ailleurs quelques passages un petit peu...
Olé.
Oui, voilà, tu l'as dit. L'amour, c'est un... Bon, bien sûr, c'est une passion humaine très, très importante. Un petit commentaire sur l'amour au cœur de ta vie ?
L'amour, de toute façon, je pense, est toujours un moteur dans la vie. Sans amour, on ne peut rien faire. Dans les mauvais moments, si on n'a pas l'amour, on se laisse aller. Si on l'a... On est transporté. Et l'amour, c'est toute forme d'amour pour moi. C'est même aujourd'hui... C'est l'amour aussi pour un paysage. Moi, je sais que je peux être transportée d'amour devant un paysage. J'avoue que je ressens parfois un sentiment de bonheur intense quand je suis devant quelque chose qui me plaît. L'amour, c'est au sens, c'est la passion. Je pense que je suis une passionnée, mais une passionnée pour la vie, surtout.
L'enfant du jardin, c'est la première nouvelle qui ouvre le recueil Les Chemins du Mystère. Oui. Et avant la pause musicale, justement, je disais que bon, cette nouvelle, c'est l'histoire d'une adolescente qui est complexée puisqu'elle est un petit peu en surpoids. Mais bon, l'essentiel de l'histoire n'est pas là, elle est orpheline et sa mère est morte accidentellement, elle est tombée d'un balcon à Semur en Auxois. Et cette petite jeune fille, le soir, régulièrement, voit une petite fille avec un ours en peluche qui déambule dans le jardin. Et c'est une apparition, on est bien dans un univers fantastique. Et je disais que cette nouvelle m'a fait penser au fait qu'on ne se libère jamais complètement de son enfance et que nous avons tous peut-être, justement, il y a toujours un petit mystère, une petite anomalie de notre enfance qui reste ancrée, alors plutôt inconsciemment que consciemment, en nous, Sandra. Et l'enfance, justement, toi qui en côtoies des enfants, notamment au collège à Chaluz, tu es très largement habituée à cette période de la vie.
Oui, c'est vrai. Et j'ai voulu également montrer que le fantôme n'est pas toujours celui qu'on croit. C'est-à-dire que, enfin, pour ma part, moi j'ai toujours eu beaucoup plus peur des fantômes vivants que des fantômes morts. Pour moi, si je vais dans ma maison à La Roche-en-Bronil, la maison où j'ai vécu avec mes grands-parents, qui est à présent vide une grande partie de l'année, je ressens les fantômes, enfin les présences, hein. Et ce ne sont pas les fantômes de mes grands-parents qui m'émeuvent le plus, c'est mon fantôme à moi. Le fantôme de la petite fille qui courait dans le jardin. Et quand je regrette mon enfance, je regrette beaucoup plus de tous ces petits moments de bonheur que les gens que j'ai perdus, parce qu'il faut bien mourir un jour. Mes grands-parents, j'ai eu la chance de les connaître. Mon grand-père est mort à 97 ans, ma grand-mère à 90. Donc j'ai eu cette chance de les voir. J'avais 40 ans passés quand je les ai perdus les deux. Donc, mais par contre, la petite fille qui n'est plus moi, ça, je l'ai perdue à tout jamais. Et l'enfant du jardin, cette petite fille, on va rien révéler, hein, mais cette petite fille, justement, elle est là, elle s'accroche, elle s'accroche. Bon, je ne vais pas en dire plus, Yannick, je te dis, parce que sinon on va révéler l'histoire. Mais oui, c'est vrai, c'est l'enfant qu'on porte chacun en nous, mais pas l'enfant qu'on a fait, l'enfant qu'on a été.
Puisqu'on parle de fantômes, on t'a vu en photographie, alors c'est dans un article en février dans le Bien Public, on t'a vu en photographie avec entre les mains le recueil Les Chemins du Mystère, devant la gare un peu moribonde, abandonnée de La Roche-en-Brenil. Et là aussi, c'est une gare devenue un peu gare fantôme maintenant.
Mmh. Autre thème pour moi très très important, le train. Le train.
Ah, tu sais qu'en plus, tu es à bord de wagons livres, donc tu peux...
En plus, oui, parce que le train, c'est le vecteur pour moi. Le vecteur, le voyage, l'infini. Et dans ce recueil, on a une histoire qui s'appelle Un train pour nulle part. Et le départ est la gare de La Roche-en-Brenil. On en dit plus ou pas encore?
Tu peux peut-être en dérouler un peu plus pour nos auditrices, auditeurs. En tout cas, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'absurde aussi dans cette histoire.
De l'absurde, de l'amour aussi, puisque c'est un couple qui se retrouve dans un train qui part d'une gare abandonnée. L'absurde, on le connaîtra à la fin, on connaîtra cette situation de ces deux personnes, bon, très inspirées aussi par Jean-Paul Sartre, également, qui fait partie, qui fait partie des auteurs que j'aime bien, son théâtre en tout cas. Hein. En fait, voilà, j'ai l'impression que ce recueil, pour te résumer, Yannick, c'est mon univers. L'univers de mon enfance, l'univers de mes lectures, l'univers de mes sentiments. En fait, c'est tout ça en même temps.
Alors, il y a une histoire intitulée Fille d'Ariane. Alors, bien sûr, on pourrait y voir une connotation mythologique. Pourtant, l'histoire s'inscrit dans les années 30, puisque tu parles plutôt 38-39, puisque tu es question du président Lebrun et de la montée, enfin, un tout petit peu avant les années 30, puisque il y a la montée des périls fascistes en Allemagne, avec l'accession d'Hitler au pouvoir. Et dans cette nouvelle, c'est l'histoire d'une séparation. Alors, je le disais, effectivement, les thèmes sont graves, sont douloureux, un couple qui se sépare, mais il y a toujours, je dirais, dans ces nouvelles, un jeu de prismes qui déforme avec une chute qui surprend toujours le lecteur.
Un déplacement dans le temps aussi.
Oui, et effectivement un décalage dans le temps, oui.
Toujours. Et depuis Rendez-vous avec un fantôme, je joue toujours sur ce déplacement dans le temps parce que je pense que l'être humain n'est pas un seul et l'être humain n'est pas ancré ni dans un endroit ni dans une époque. L'être humain, il est forgé par plusieurs époques, par plusieurs lectures et par plusieurs lieux.
Alors, puisqu'on parle d'époque, on parle de fantômes, il y a vraiment un château à La Roche-en-Brenil ou une très très belle demeure?
Ah oui, un château, le château de Montalembert, toujours dans la famille d'ailleurs, Yannick.
Mais c'est ce château de La Roche-en-Brenil, c'est cette maison, c'est la maison Charlotte, ce qu'on appelle également la maison Charlotte?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un château un tout petit peu isolé du village, mais les propriétaires ont la gentillesse en plus de nous permettre de nous promener dans le parc. Mais la maison Charlotte, non, la maison Charlotte, elle est dans le bourg. Le château, il est vraiment pas à l'extérieur du bourg, mais à, on va dire, quelques centaines de mètres. Il est très, très accessible quand on est dans le bourg. Hein.
Alors, dans Histoire extraordinaire et lieux mystérieux de Bourgogne. Donc là, j'ai changé d'ouvrage. Hein. C'est ce livre qui est sorti au printemps 2016 aux éditions du Belvédère. Il est question donc d'une maison hantée 1898 à La Roche-en-Brenil.
Dans la maison Charlotte.
Dans la maison Charlotte. Comment se fait-il que tu aies une date 1898? Est-ce que là, tu t'inspires d'un fait divers? Bon, l'histoire nous dit que des journalistes de Dijon étaient venus à La Roche-en-Brenil pour s'intéresser à cette maison hantée.
Alors là, justement, Yannick, mon grand-père va encore intervenir parce que il me faisait peur en me racontant cette histoire de gamin qui, dans la maison Charlotte, enfin, de cette histoire d'esprit frappeur dans la maison Charlotte. Donc, ça m'avait marqué parce que ça fait peur par contre, parce que je te dis pas, dans une vieille maison comme celle dans laquelle on habitait, dès que j'entendais un bruit, c'était le bois qui travaillait, mais en fait, j'avais peur que ce soit l'esprit frappeur. Donc, c'est vrai que j'en ai eu des peurs à cause de ça, hein, dans ma chambre le soir. Mais ensuite, pour écrire tout d'abord les mystères du Nivernais, parce que dans les mystères du Nivernais, j'ai abordé déjà cette histoire, hein, qui n'est pas une légende par contre, hein, c'est une histoire. Ensuite, j'ai fait des recherches aux archives. Et j'ai donc trouvé trace de cette histoire en 1898 de ce gamin qui vivait ces événements, donc l'esprit frappeur.
Donc un enfant qui avait été recueilli à l'hospice de Saulieu
Très
et
tourmenté,
qui apparemment, c'est
provoquait
lui
ces
qui
bruits.
provoquait ces déplacements d'objets.
Apparemment. Bon, ensuite, pour avoir feuilleté des revues concernant les sciences occultes, j'ai appris que le cerveau humain pouvait provoquer ce genre de choses, notamment chez des adolescents perturbés. Après, on en fait ce qu'on veut, hein, de ces informations-là, évidemment. Ça peut être une explication, le cerveau n'étant quasiment pas connu, enfin, ce qui s'y passe en tout cas.
Alors, tu as écrit ou réécrit les légendes du Morvan, histoire mystérieuse de château en Bourgogne, légende du vignoble, les mystères du Nivernais, c'était aux éditions de Boré. Il y a eu ensuite les légendes du Morvan en bande dessinée aussi, adaptée,
Oui.
faut le dire. Alors, tu es très attaché aussi au changement de support, le passage du texte narratif
Ah oui.
à un autre mode
Ah oui.
d'expression. Alors ça aussi,
Oui,
c'est
j'aime beaucoup.
la transposition par l'image qui, à mon avis, doit séduire aussi beaucoup les adolescents et les jeunes publics.
Oui, bien sûr, oui. Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à être scénariste de deux bandes dessinées, donc Les Légendes du Morvan dont tu viens de parler, et Les gens des mystères de Bourgogne, une bande dessinée adaptée des histoires extraordinaires et lieux mystérieux.
Alors, on reviendra sur les légendes. Et je voudrais savoir aussi et que tu nous expliques le travail de recherche, peut-être de réécriture, de transposition, parce que tu en as accumulé un nombre impressionnant. Enfin, quand
C'est vrai.
certaines, on en retrouve certaines que tu as réécrites, mais elles sont nombreuses. On en parle dans une poignée de minutes. On marque un nouveau temps de pause. C'est Sandra Amani qui nous accompagne aujourd'hui à bord de Wagon Livre sur Radio.
Again, whoa,
Sandra Amani est avec nous ce soir devant les micros de Radion. Sandra, tu as fait paraître en mai 2016 « Histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne ». Alors, c'est tout à fait passionnant. D'abord, il faut dire que tu as une belle actualité éditoriale qui se profile aussi avec ce livre. Je te laisse le soin de nous en parler.
Oui, c'est vrai, parce que ce livre est accueilli chez France Loisirs, où je vais donner à Auxerre, où je vais le dédicacer le 27 juin, ainsi que la BD adaptée et Les Chemins du Mystère. Et c'est vrai que pour moi, l'opportunité d'être à France Loisirs, c'est une belle surprise, oui, c'est vrai.
Histoire extraordinaire et lieux mystérieux de Bourgogne, bien sûr, touche les quatre départements de notre belle Bourgogne. Je me suis intéressé pour notre émission à Lyon. Néanmoins, petit crochet par Dijon, avec deux sites absolument remarquables. Il y a le Jacquemart de Notre-Dame, d'une part. D'autre part, la Chouette, qui a été d'ailleurs encore vandalisée récemment, puisqu'elle a été taguée en février à l'issue d'une manifestation. Enfin, geste un peu ridicule.
Oui, j'ai vu ça. J'ai découvert ça dans le bien public aussi. Oui, cette petite chouette, elle a une jolie histoire, donc je n'ai pas pu passer au travers, bien sûr. Dijon, c'est quand même notre moutarde, c'est un lieu que les étrangers aiment bien visiter.
Cité gastronomique, effectivement.
Et puis toucher la chouette, c'est souvent la fin du voyage, toucher la chouette pour qu'elle nous porte bonheur. Et cette petite chouette, je raconte dans ce livre comment elle est devenue célèbre.
Alors, ce qui est passionnant aussi, c'est l'histoire du Jacquemart de l'église Notre-Dame, puisque d'abord, le Jacquemart était tout seul, et puis la famille s'est agrandie. Il y a eu ensuite Jacqueline, surnommée Jacotte, puis après, il y a eu des enfants. Il y a eu Jacquelinet, qui est arrivé en 1715,
oui,
de la mort de Louis XIV, d'ailleurs. Et la petite Jacquelinette arrive, elle, en 1881. Ça, c'est raconté. Ça, c'est de l'histoire, on n'est pas dans la légende.
C'est de l'histoire, oui. Et c'est du tourisme aussi, puisque c'est trop joli ce moment où les Jacquemart sortent de chez eux toutes les heures à Dijon.
Alors, l'histoire aussi, à travers Charlemagne, qui fait un étrange songe à ce lieu,
qui permet de voir naître la basilique telle qu'on l'a aujourd'hui,
la basilique Saint-Andoche.
Oui.
Alors, en fait, Charlemagne
c'est pas
a failli être menacé par un sanglier, il a failli perdre la vie.
Et a été sauvé grâce à ce songe qu'il a fait et qui lui a permis de maîtriser le sanglier.
En fait, ce qui est aussi très intéressant dans ces histoires, il y a toujours un côté merveilleux, un côté magique, un côté miraculeux, c'est tout de même les forces du sacré. Enfin, je veux dire qu'il y a tout de même, je pense que toutes ces histoires ont accompagné l'évangélisation de la Bourgogne.
C'est d'ailleurs un petit peu ça qui me gênait à la fin, tu vois Yannick. Parce que c'est vrai que dans chaque part de légende, on a une morale.
Tu n'es pas très frottée de religion ? Ça t'exaspère un peu ?
La religion en elle-même, oui, je ne critique absolument pas les croyants, mais la religion pour moi est beaucoup trop sectaire, quelle que soit la religion. Là, je ne suis pas du tout en train de faire du prosélytisme, mais c'est vrai, moi je suis, et j'ose le dire maintenant, hein, je suis anti-religion, je précise, pas anti-Dieu, chacun vit sa croyance comme il le veut.
Mais as-tu eu une culture chrétienne
et
dans ton enfance?
Non, et non, mon grand-père était communiste. Il a d'ailleurs connu Maurice Thorez, donc c'est vrai que non. Mais par contre, mon grand-père disait, moi, c'est pas Dieu que je critique, c'est la façon dont il est représenté. Et là, il parlait pas du tout du catholicisme ou de quoi que ce soit, il parlait de la religion, de la façon qu'on a de s'approprier ce Dieu qui est le bien, selon moi, hein, qui est le bien qu'on porte en chacun de nous, et cette volonté qu'on a de faire le bien, pour l'amener à des fins, ben, on voit ce que ça donne aujourd'hui, de toute façon, hein, cette religion. Je précise, quelle que soit la religion, là, je ne fais pas de prosélytisme. Et un jour, c'est pareil, je devais être très jeune, hein, je devais avoir 12 ans, je me suis dit, moi, je vais œuvrer pour ne jamais faire de mal à personne. Et je crois que quelque part, bon, je ne connais pas de prêtre, hein, mais je pense que quelque part, je ne pense pas qu'on puisse me donner tort avec ça, même quelqu'un qui appartienne à une religion. Donc c'est pour ça, mes légendes, c'est un univers très très sacré. Et
Païen
d'ailleurs,
aussi parfois, enfin, on a
oui,
le
mais
païen, le sacré.
justement, Yannick, j'ai découvert aussi à travers les histoires que j'ai écrites. Ces ravages qu'ont fait les chrétiens pour détruire la religion païenne. J'ai découvert Saint-Martin, qui n'a pas hésité non plus à détruire des temples, enfin, à faire détruire des temples, à faire tuer des Gaulois, tu vois. Et c'est vrai que ça ne m'a pas du tout conforté, dans l'amour de la religion, tout ça, j'avoue.
Alors, ce mur en ossoie, par exemple, tu expliques l'anneau nuptial de la Vierge qu'un chevalier avait ramené de croisade, me semble-t-il. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a ces fameuses fêtes de la bague
Oui.
fin mai à chaque année à ce mur en ossoie qui draine une foule nombreuse.
Oui, mais de toute façon, je voulais informer les gens, donner l'origine de la fête de la bague. C'est pas du tout dire il faut aimer la Vierge Marie, ni même faut y croire. C'est expliquer pourquoi on a la fête de la bague. Et les histoires mystérieuses et extraordinaires de Bourgogne ont tout de même une volonté historique. Je ne suis pas historienne. Donc c'est vrai qu'on pourra peut-être me reprocher des fautes historiques. À l'intérieur du recueil, ça m'est complètement égal de toute façon. Moi, j'ai voulu en fait expliquer à travers la légende ce qu'aujourd'hui on considère parfois comme banal.
En revanche, il faudrait quand même que tu me montres un jour ce que tu écris à l'extrême fin donc de cette histoire, l'anneau nuptial de la Vierge qui nous emmène et nous promène dans les environs de ce mur en ossoie et ce mur en ossoie. Tu écris donc qu'on peut aller disputer la course à la bague.
Oui.
Ensuite, vous pourrez aller dans le vieux Semur en ossoie et
Ah.
repérer les couilles du pape sur le port.
Je savais que t'allais me parler des
Qu'est-ce
couilles du
donc ces
pape.
couilles du pape
Oh,
sur
mais
le bras?
franchement, tu sais, bon, ce mur en ossoie, il y a un petit porche. Un petit
Je
porche, tu
pense le
sais,
voir,
pour
oui.
accéder à la rue principale, la rue où sont les magasins. Et donc, dans un petit coin à droite enfin, à droite quand tu viens de l'extérieur de ce mur, hein. Donc, à droite quand tu viens, on va dire, de Dijon. Pas par le pont Joly, de l'autre côté. En fait, ah ben si, par le pont Joly, on peut aussi. En fait, tu as deux boules gravées dans la pierre, une colonne, sur une colonne, et ce sont les fameuses couilles du pape. Quel pape? Ça, on ne sait pas, mais le pape.
Merci, sans écoute, je ne manquerai pas d'aller voir les couilles du pape la prochaine fois lorsque je serai de passage à ce mur en ossoie. Tu avais écrit Les amours et passions d'antan en pays bourguignon, où là tu revenais sur le grand amour de Mallarmé, sur le chevalier Déon et Madame de Pompadour. Et puis il y avait une histoire dans ces amours et passions d'antan en pays bourguignon intitulée La putain religieuse.
Oui, j'y tiens beaucoup à cette histoire. Parce que comme je te disais tout à l'heure, Yannick, je ne suis pas anti-Dieu. Je ne suis pas, bien sûr, anti-bien. Mais par contre, je suis anti-religion. Et cette femme, la putain religieuse, a voulu, en son temps, démontrer qu'on pouvait faire des folies de son corps et aimer Dieu. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi un homme que je respecte énormément, l'abbé Pierre, qui dans son roman, enfin dans sa biographie, a osé dire que malgré son amour pour Dieu, il a ressenti également de l'amour pour certaines femmes avec qui il a concrétisé cet amour. Et tout comme j'ai énormément aimé ce qu'a dit l'abbé Pierre à cette époque, j'ai énormément aimé cette femme, cette putain qui se donnait à n'importe quel homme de passage dans son couvent, mais qui en même temps poursuivait les valeurs du bien, qui en même temps demandait à ses filles, donc à ses filles à qui elle autorisait bien sûr les mêmes débauches qu'à elle-même, qui demandait à ses filles d'aimer Dieu également. Et je trouve que c'est très moderniste ça, c'est génial. Enfin, je l'ai trouvée géniale, cette femme. On est le 8 mars aujourd'hui, hein, journée de la femme, donc on peut lui rendre hommage.
On va marquer une dernière pause musicale et puis ensuite nous irons encore sillonner Lyon à travers les histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne, donc ton ouvrage paru aux éditions du Belvédère l'an dernier. Nous irons nous promener du côté de Carré-les-Tombes. Peut-être que tu pourras nous expliquer d'où viennent la quarantaine de sarcophages autour de l'église Saint-Georges. Un petit détour par Noyères sur Serein et puis nous nous arrêterons à Avallon. Ce sera l'occasion de revenir sur des périodes, oui, 16e siècle, où on ne plaisantait pas avec la morale. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Sandra Amani qui nous accompagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et c'est Wagon Lit.
J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. T'atteindre, mais comment t'atteindre en sensuel, toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel?
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Elle vient de faire paraître Les Chemins du Mystère aux éditions Temps Impossible. Elle a, l'an dernier, fait paraître aux éditions du Belvédère un recueil d'histoires extraordinaires et lieux mystérieux de Bourgogne. C'est Sandra Amani qui nous accompagne. Nous sommes à l'extrême fin de l'émission. Le temps n'est pas impossible avec toi, Sandra. Le temps est possible et passe très vite.
Avec toi aussi.
Merci, Sandra. Alors, un petit mot sur Carré-les-Tombes. Là, on est aux confins du Morvan avec quelle est l'origine énigmatique des sarcophages qui se trouvent autour de l'église Saint-Georges sur la place de Carré-les-Tombes.
Alors, plus très énigmatique. D'ailleurs, tu viens de prononcer le nom, l'église Saint-Georges. Alors, ces sarcophages auraient été envoyés du ciel par Saint-Georges parce que ces sarcophages sont vides. Ils ont cette particularité d'être vides et de ne contenir aucun corps. Donc, Saint-Georges les aurait envoyés pour mettre les corps des hommes
qui ont combattu les infidèles, les païens,
voilà,
et les sarrasins.
C'est ça. Bon, la réalité est probablement tout autre, puisqu'il existait à côté de Carré-les-Tombes une usine, une carrière, et effectivement, ces sarcophages auraient été dispersés autour de l'église pour faire un peu de pub.
Ces sarcophages, tu en parles, hein, effectivement, en disant qu'ils viennent de la vallée du Serein, de Dissangy, et peut-être la grotte de Champ-Rota, qu'on appelle maintenant la grotte de Champ-Rota aussi, mais
se
trouve après l'Isle-sur-Serein, pour celles et ceux qui connaissent le sud du département de l'Yonne. À Avallon, au milieu du XVIe siècle, Sandra, il s'est passé un fait divers absolument affreux.
Alors, j'ai pris Avallon, c'est vrai, comme exemple, mais il faut malheureusement savoir qu'à cette époque, l'époque de l'obscurantisme religieux justement, époque de l'Inquisition, on assistait à beaucoup de catastrophes de la sorte. Et cet homme qui a été accusé par sa femme qui voulait le quitter pour épouser son amant d'avoir fricoté avec une brebis, cet homme qui était pendu avec sa brebis, malheureusement n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nombre de personnes ont été égorgées avec leurs truies ou écartelées avec leur cheval. Tout ça pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ou alors on punissait l'animal, on punissait le maître aussi. Un cochon qui dévorait un enfant, on punissait le cochon, on punissait également le maître du cochon. C'était très amusant. La foule était là dès le matin pour assister à l'exécution, aussi bien du cochon ou de l'animal que du maître. Et après, on était tout contents, on pouvait aller au marché, enfin. Bon, voilà. J'ai raconté cette histoire, c'est vrai, je porte un triste regard sur cette époque. Évidemment, on parle encore de religion, hein. Mais effectivement, j'ai voulu aussi, à travers ce livre, dénoncer certaines pratiques, je dois dire.
Et je voudrais signaler une bibliographie tout à fait intéressante, puisque tu t'es beaucoup documenté.
Ah oui, bien sûr,
je pense notamment aussi à Patrice Vachon, qui a écrit Exécution et excommunication d'animaux en Côte d'Or.
C'est lui qui m'a énormément donné toutes les informations pour parler de ça. Parce que c'est vrai que Patrice, lui aussi, hein, s'est intéressé à toutes ces choses.
Au procès d'animaux, oui, c'est tout à fait.
Procès d'animaux, sorcellerie, etc.
Non loin d'Avallon, il y a la colline éternelle. Alors Vézelay, est-ce que c'est Vézelay qui t'attire ou est-ce que c'est Marie-Madeleine, cette mauvaise fille mais qui s'est repentie et qui a baisé les pieds du Christ?
Non.
Voilà une autre femme.
C'est l'échelle de lumière qui me plaît beaucoup à Vézelay, cette fameuse échelle de lumière qui, le 21 juin, justement, apparaît dans son ensemble. En fait, c'est vrai, Yannick, je suis vraiment attirée par le mystique, l'occulte, mais également par certains phénomènes mathématiques, faut pas croire, qui nous environnent, parce que je crois que tout est lié, les maths, la littérature, le mystique. Je crois qu'en fait, il faut pas s'amuser à dissocier tous les éléments de ce monde, il faut les apprivoiser pour en faire un tout.
Tu as parlé de la lumière, mais la lumière, c'est tout de même le symbole de l'esprit en action, c'est l'esprit qui l'attire.
Oui.
Pas forcément la religion, la croyance.
Voilà,
la foi,
l'esprit.
Mais l'esprit mathématique, l'esprit artistique.
C'est ça, tu as tout compris, c'est vrai.
On parle encore d'un miracle, Sainte-Magnance. Alors Sainte-Magnance, c'est la dernière commune avant la Côte d'Or, on est tout au sud du département. Alors c'est entre Cussy-les-Forges, donc dans l'Yonne, et Rouvray, là, c'est le premier village de...
Tout le monde a dû remarquer, d'ailleurs, ces magnifiques statues qui sont à l'entrée du village. Excuse-moi de rire,
elle est jolie, cette sculpture, qui représente à la fois... Donc, il y a Saint-Germain, qui calme les eaux, et Sainte-Magnance, qui est représentée, d'ailleurs, avec un agneau pour emblème. Elle a été bénie, d'ailleurs, en 2009. Tu la trouves ridicule, cette...
Ah non, bien sûr, pas ridicule du tout, non. Mais c'est vrai que... Au départ, justement, ce qui m'a permis d'en raconter l'histoire, c'est qu'au départ, je ne voyais pas du tout ce que ces deux statues venaient faire là. Donc, je me suis arrêtée, j'ai eu la curiosité. Là, j'ai vu que c'était Magnance et Saint-Germain. Et là, par contre, ça m'a donné envie de découvrir l'histoire, tu vois. Parfois, ça part de là, hein, mes histoires. Elles partent d'un lieu Et ce lieu m'intrigue tellement, voire me déplaît tellement, que je me dis, faut que je sache, faut que je sache. C'est la curiosité qui me pousse.
En tout cas, nos auditrices et auditeurs ont également la possibilité de savoir, d'apprendre, de renouer avec le terroir, de se plonger dans les légendes, qu'elles soient païennes, qu'elles soient chrétiennes, empreintes toujours un peu de magie, de merveilleux, de surnaturel. Et je crois qu'elles peuvent toutes nous parler. Enfin, il y a beaucoup de signes, je pense. C'est très intéressant d'un point de vue sémiologique, essayer d'interpréter les signes.
Exactement, le signe, la puissance du signe.
La puissance du signe.
Ça, c'est merveilleux, par contre.
Alors, rappelons donc aux éditions du Belvédère, installées à Pontarlier, dans le Doubs, Histoire extraordinaire et lieux mystérieux de Bourgogne, prochainement disponible donc au catalogue de France Loisirs. Ça, on peut s'en réjouir.
Peut-être pas au catalogue. Alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas trop compris. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment le début. Par contre, disponible dans tous les France Loisirs de France, en commande.
Histoire extraordinaire et lieux mystérieux de Bourgogne. Et puis, le recueil des 5 nouvelles, Les chemins du mystère aux éditions Temps impossible, avec une couverture de Fred Griveau, que l'on peut trouver alors dans un grand nombre de librairies de Lyon dans un premier temps.
Alors pour l'instant oui. Bon, nous sommes à Avallon, donc la promesse de l'aube, hein, bien sûr.
À Avallon, c'est l'autre monde.
Oh pardon.
La promesse de l'aube, c'est à Autun.
Oui, excuse-moi Yannick, oui tout à fait.
Non, c'est pour les
l'autre monde, oui. Ah non, mais bien sûr, oui. Oui, et dans d'autres librairies d'Avallon. Non, mais là, c'est
d'autres librairies,
d'autres
de
librairies de Lyon.
De Lyon.
De Lyon et de Bourgogne aussi.
Ouais, par contre, Tonnerre,
oui,
je sais plus,
bien
l'image,
sûr. Ben, on va citer Auchan à Avallon quand même, hein, puisque Sylvie m'offre quand même beaucoup d'opportunités également, de dédicaces aussi. Mais sinon, disponible sur commande également partout.
Très bien. En tout cas, l'émission, et puis on remettra les liens et tes contacts.
Exactement.
Sur la page d'archives de cette émission que vous retrouvez sur yannickpetit.fr d'ici quelques heures ou demain matin. Sandra, le moment est venu de nous quitter. Je te remercie d'avoir été ce soir devant nos micros. Mercredi prochain, 15 mars, toujours à 21h, je vous proposerai un entretien avec Jean-Joseph Julot, qui est l'auteur emblématique de la collection Pour les Nuls, avec notamment la célébrissime Histoire de France pour les Nuls, la poésie française pour les Nuls et la géographie française pour les Nuls. Merci de votre fidélité, très bonne soirée, merci encore à toi Sandra Amani, merci d'avoir
merci
été avec nous. Très bonne fin de soirée à l'écoute de Radion et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.